7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose d'emprunter la route en France à bord d'un camping-car, mais pas n'importe quelle route, la Nationale 7, la mythique route des congés payés qui reliait autrefois, avant l'arrivée de l'autoroute, Paris à Menton, aux portes de l'Italie et au-dessus de la Méditerranée. Bonjour Clément Pétraud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Le Point et vous publiez Nationale 7, voyage dans une France oubliée. Finalement, vous avez retrouvé le tracé de la plus longue route nationale française qui symbolisait autrefois une France du plein emploi, des vacances, une France de l'insouciance. Aujourd'hui, ce sont presque 1000 kilomètres qui ont en fait plus ou moins disparu, qui traverse 15 départements, près de 180 communes, réchauffées par le soleil au fil de la route, si bien sûr on part de Paris et qu'on descend vers le sud. Vous allez nous raconter quelle France vous avez croisée sur cette route, que l'on dit enlaidie par les centres commerciaux, les ronds-points, ou encore gangrénée par le sentiment de déclassement, en tout cas pour les habitants qui vivent loin des grands pôles urbains. Et puis en fin d'émission, nous donnerons la parole à l'Afrique qui gagne, comme chaque lundi. Aujourd'hui, portrait de Dorcas Apour, une jeune Ghanéenne de 23 ans, seule fille de sa grande fratrie à être allée à l'école. Elle lutte contre l'abandon scolaire en milieu rural et travaille pour que les femmes aient enfin des revenus à elles.
Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. Première escale de ces grandes vacances, Marseille.
Mais avant de parvenir à ces paradis de nos régions, il faut traverser le purgatoire routier.
Marseille, où nous avons constaté parmi les véhicules une majorité de Parisiens. Viennent ensuite, comme chaque année d'ailleurs, les Lyonnais et les Belges.
Il n'y a pas de plaisir sans peine, c'est évident.
Ne luttez pas contre le chronomètre, soyez patient et détendu. Et vous passerez alors les vacances que nous vous souhaitons ce soir, longues et heureuses.
Clément Pétraud, d'ailleurs vous me faites cette réflexion pendant qu'on entend ces archives. La Nationale 7 ne passe précisément pas par Marseille. Elle relie donc Paris à Menton. Mais beaucoup de vacanciers faisaient évidemment quitter la Nationale 7 pour rejoindre des villes qui étaient des endroits où on avait envie de passer des vacances, comme Marseille.
Oui, alors ouais, c'était une route en fait où on était obligé d'avoir le temps. C'est-à-dire pour relier Paris à Menton, il fallait prendre une journée et demie, deux jours, parfois deux jours et demi quand ça se passait mal. C'est pendant ça. Les grands départs, ouais. En vacances, c'était complètement fou. Il y avait des embouteillages qui n'en finissaient pas. On pouvait mettre 5 heures à traverser un village ou une ville comme Montélimar. Le nougat de Montélimar a prospéré sur les embouteillages de la Nationale.
Ouais, parce qu'on vendait dans des paniers sur le bord de la route les produits locaux.
Oui, complètement. Ouais. Les nougatiers envoyaient leurs filles vendre des nougats aux fenêtres des voitures.
Vous avez grandi pas très loin de la Nationale 7?
Oui, entre autres, ouais, j'ai passé quelques années à Nevers, qui est une ville traversée par la Nationale 7.
Et donc, vous avez décidé de passer 30 jours à bord d'un camping-car pour comprendre quoi, dans le fond? Une autre France en pleine campagne présidentielle,
oui,
en 2017?
Il y a plusieurs choses. Déjà, on peut habiter, vivre dans un pays. Moi, j'ai habité dans beaucoup de villes en France, plus d'une dizaine de villes, une quinzaine de villes. Et c'est pas parce qu'on a habité partout qu'on connaît pour autant le pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une campagne électorale, c'est un moment où il y a évidemment des programmes, les gens se positionnent en fonction de leurs opinions, etc. Mais c'est aussi un moment d'introspection. À un moment, on réfléchit à ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on désire, qui on est, qu'est-ce qui nous anime. Et du coup, c'est un moment idéal pour aller à la rencontre de l'autre.
Parce que les habitants, finalement, lèvent un peu le nez du guidon, se questionnent davantage.
Bah, on est dans leur tempo, on est dans le moment où ils sont ouverts à la discussion. Alors parfois, c'est des discussions, des conversations assez musclées, sur les questions politiques en particulier, mais on arrive dans un moment propice pour comprendre.
Pourquoi un camping-car ? Parce que le train fonctionne en France.
Le train fonctionne tout à fait. J'aurais pu mettre 3 heures pour aller à Menton ou à Marseille. Le camping-car, c'était l'idée d'avoir une maison à soi, qu'on trimballe avec soi. Et puis, je m'étais dit au début, mais à tort, que je serais probablement invité partout, que j'allais pouvoir garer mon camping-car chez tout le monde, etc. Et en fait, en 30 jours, j'ai reçu deux propositions de
garage. Ah oui, ça en dit long quand même sur l'inhospitalité française.
Alors, je ne sais pas si c'est une inhospitalité,
vous
mais en tout cas, il y a une forme.
Antipathique.
Bah, écoutez, je ne sais pas, vous me trouvez antipathique.
Non, pas spécialement.
Non.
Mais vous présentiez comme journaliste.
Oui, alors c'est une période où les journalistes n'étaient pas forcément très bien vus, surtout venant de Paris, parce qu'on était dans la campagne présidentielle où François Fillon avait beaucoup de problèmes et une des grandes stratégies de la droite consistait à dire que c'était la faute des journalistes. Donc, dans des zones électoralement plutôt ancrées à droite, les journalistes n'étaient pas forcément très bien venus. Donc, il y avait ce paramètre-là, mais il y a aussi le paramètre de la méfiance, c'est-à-dire qu'on apprend à se faire confiance, on apprend à se connaître avant d'ouvrir le foyer à l'autre.
Vous aviez aussi dans l'idée, avec ce camping-car, de revivre un petit rêve de la route 66 aux États-Unis, d'est en ouest, ou
ouais, toute proportion gardée. Non, mais il y avait une envie de road trip. Je pensais sincèrement qu'on pouvait être beaucoup plus ouvert à l'improvisation et à la découverte. Et en fait, c'est quand même très compliqué de faire du camping-car en France. On est obligé de se garer sur des aires de camping-car ou dans des
vous avez beaucoup campings. Dormi sur des parkings de supermarchés, il faut bien le dire.
Ouais. Voilà, c'était pas forcément toujours agréable.
Comment vous êtes sorti moralement de cette traversée de près de 1000 km?
Alors, je suis sorti heureux parce que déjà, c'était une belle victoire de réussir à rencontrer autant de gens et réussir à faire parler autant de gens et à porter un peu leur parole.
30 jours sans verrouiller votre camping-car,
ouais,
d'ailleurs.
Oui, 30 jours sans verrouiller le camping-car. Comme quoi, on peut se balader en France quand même sans...
C'était un défi aussi ou pas?
Pas du tout, c'était un pur hasard technique. Le loueur avait simplement mal rebranché la serrure.
Et ça ne vous a pas stressé?
Si, un peu, à la fin. Mais bon, finalement, j'avais déjà passé 20 ou 25 jours ouvert sans le savoir. Donc, je n'ai pas eu tant de mal que ça. Mais
vous êtes sorti finalement très désillusionné sur votre pays, la France, ou...
Non, il ne faut pas avoir que les choses négatives, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui souffrent un peu de l'évolution du pays, de la mondialisation qui les met un peu en dehors, au bord de la route. C'est un petit peu cette métaphore routière. Mais après, les gens peuvent se détester en apparence, être politiquement très opposés. Moi, j'ai rencontré à L'Oriole, par exemple, c'était dans la vallée du Rhône, des gens qui partageaient un petit bout de jardin pour cultiver trois tomates et deux salades. Et en fait, c'était deux voisins qui se partageaient cette petite parcelle. Il y en a un qui votait NPA et l'autre qui votait Front National. Donc, c'est quand même pas complètement les mêmes.
Extrême
gauche et extrême droite. Et au fond, ils étaient politiquement d'accord sur rien, mais... quand il s'agissait de se dire où est-ce qu'on plante des salades, ils arrivaient à s'entendre sans aucun problème. Ce qui montre qu'il peut y avoir des débats, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des frictions, mais c'est pas pour autant que les gens se détestent. Il faut pas s'arrêter au premier a priori.
Alors, vous avez emprunté cette fameuse Nationale 7 qui, en réalité, a en grande partie disparu. C'est-à-dire que vous êtes allé à la recherche des vestiges de la Nationale 7,
un
souvent.
Un petit peu. En fait, elle a disparu. La route est toujours là, goudronnée, avec ses ronds-points, ses feux, il y a toujours des voitures dessus, etc. Mais elle ne joue plus son rôle de colonne vertébrale qu'elle jouait dans la géographie routière française. Voilà. D'avant l'autoroute, d'avant le TGV et d'avant l'avion.
Et en fait, ça s'est fait petit à petit, bien sûr. L'autoroute du nord au sud n'est pas arrivée du jour au lendemain, dans plusieurs années.
Oui, mais quand vous discutez avec les gens de Montélimar, par exemple, qui est dans la vallée du Rhône, au sud de Lyon, les gens qui ont vécu ça vous racontent, c'est en 68, me semble-t-il, vous racontent que le jour où l'autoroute est arrivée, le centre-ville est devenu silencieux et les magasins qui vendaient du nougat ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires en 3 semaines. C'est-à-dire que tout le monde faisait faillite du jour au lendemain. Donc on voit quand même que l'arrivée d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle possibilité repousse toujours certains utilisateurs vers d'autres destins.
Visuellement, racontez-nous ce que traverse cette Nationale 7. Alors vous, il se trouve que vous êtes parti du sud pour remonter vers le nord.
Oui. Alors vous commencez par le sud.
Vous êtes parti de Menton.
Vous partez à Menton, voilà, c'est la Méditerranée, donc vous avez les contreforts des Alpes qui se jettent dans la Méditerranée, c'est très beau, il y a une végétation méditerranéenne, des oliviers, des mimosas. Et puis après, vous bifurquez, vous remontez vers la vallée du Rhône, et la vallée du Rhône, elle n'est pas forcément très sexy, elle a beaucoup de sites industriels, des centrales nucléaires, de la pétrochimie, de l'industrie.
Non, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent, oh là, essayez, il est passé dans le pays du vin aussi, non?
Alors oui, aussi, il y a évidemment des endroits, quand on arrive à Tain-l'Hermitage, la colline de Tain-l'Hermitage est absolument sublime, c'est les plus beaux vignobles de la vallée du Rhône, et là vous arrivez dans un endroit merveilleux, idyllique, où vous avez cette colline recouverte de vendanges et de vignes, et vous avez des viticulteurs absolument extraordinaires, qui sont des personnages qui sont là depuis plusieurs générations, pour certains sont là depuis plusieurs siècles, c'est absolument fascinant.
Mais globalement, en fait, votre livre raconte une traversée d'une France moche.
Non, mais en fait, il faut en accepter la laideur quand elle est là. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle la France moche depuis Paris, qui est en général la France pavillonnaire, la France des ronds-points, la France des zones artisanales, vous savez,
des fast-food, des parkings de supermarchés, des stations-service à l'abandon, des lotissements aussi où chacun est calfeutré chez soi.
Oui, mais c'est malgré tout une France rationnelle et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la beauté, l'héritage historique, l'esthétisme, mais elle fonctionne. C'est-à-dire que les gens vont le week-end faire leurs courses dans des supermarchés parce que c'est mille fois plus rationnel que d'aller dans un centre-ville un peu moribond où les commerces tournent mal, on a du mal à se garer. Voilà, c'est aussi on constate la crise des villes moyennes en France, qui est très très nette.
Mais ça veut dire que c'est une France que l'on a défigurée aussi, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. C'est aussi une prise de conscience de cela. Que c'est une urbanisation qui n'a pas été faite comme elle aurait dû l'être dans un pays qui avait des politiques publiques, oui. Qui on peut pas reprocher non
elle
plus
a été
d'être
sur un
désorganisée.
Modèle... Non, c'est organisé. Après, je sais pas s'il y a une conscience de ce qu'on était forcément en train de faire. On voulait faire un pays de propriétaires. Le modèle, c'était la maison, le pavillon. Et le pavillon répond en beaucoup de critères à la rationalité nécessaire. Vous avez dans les centres-villes, les gens n'ont pas envie de payer des fortunes pour habiter des appartements où on choisit pas ses voisins. C'est vétuste, on paye des impôts très chers, un service public qui n'est pas terrible, on a du mal à garer sa voiture, et quand on sort dans la rue, c'est un peu désertifié et on n'a pas forcément envie de traîner là. Alors que pour le même prix, vous pouvez avoir un pavillon tout neuf, dont vous avez fait les plans vous-même, vous n'avez pas de voisin, vous avez votre garage, vous pouvez garer votre voiture, c'est gratuit, et vous irez de toute façon au supermarché le samedi aussi, et c'est beaucoup moins cher pour les impôts. Donc au final, c'est quelque chose de très rationnel. Vraiment, c'est pas une volonté ou un cynisme politique dans les dires le pays, mais c'est on a laissé faire. Et puis les villes étant en concurrence les unes avec les autres pour avoir plus d'habitants parce qu'elles ont plus d'argent et plus de dotations, et ben forcément on en arrive à des politiques qui donnent des espèces de grands ensembles de lotissements qui sont pas très agréables et on n'arrive même plus à se parler finalement.
De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages, jeu du midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul de Vence. Et le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités, qui font le mal entre les grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le mal en des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, tout excité, tout excité, tout excité, tout excité. On chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Route des vacances. Qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, on est heureux, National 7.
Severino, route nationale 7 chez 7 milliards de voisins. Nous nous parlons du lundi au vendredi et aujourd'hui notre invité Clément Pétraud publie National 7, voyage dans une France oubliée. C'est un voyage singulier, 30 jours à bord d'un camping-car. Non pas que l'aventure soit absolue, hein. Non c'est pas ça, mais néanmoins beaucoup de rencontres dans cette France et cette route nationale qui n'est plus empruntée aujourd'hui à cause de l'autoroute, bien évidemment, pour les vacanciers qui veulent se rendre dans le sud de la France. Vous l'avez emprunté en sens inverse d'ailleurs, hein, justement pour ne plus vous prendre pour un Parisien. Vous avez commencé à partir de Menton pour remonter donc la Côte d'Azur, la vallée du Rhône, on va redonner rapidement l'itinéraire, Lyon, ensuite
la Nièvre.
La Nièvre, alors là c'est un peu plus la France profonde.
Oui, oui, c'est France rurale.
Là où vous avez en partie grandi d'ailleurs, et puis ensuite
On remonte le long de la Loire et puis on arrive quasiment en région parisienne vers Briard, Montargis et Paris.
Pourquoi la route nationale 7, la route autrefois des vacances, a été rebaptisée en partie route du Front National aujourd'hui ?
On a vu le Front National remonter la route au fur et à mesure des élections. On voyait que les scores du FN étaient de plus en plus forts, c'est-à-dire surtout évidemment autour de la Méditerranée, dans le sud. Et puis on voyait le FN progresser en remontant la vallée du Rhône. Et là, on l'a vu aux dernières élections présidentielles. Le Front National a énormément progressé, y compris dans des terres qui étaient jusqu'ici très préservées, comme la Nièvre. Mmh. La Nièvre qui est quand même le département dont était originaire Mitterrand, enfin, qui avait élu François Mitterrand dans son cœur pendant des années, la Nièvre a placé le Front National en tête lors des dernières présidentielles.
Très schématiquement, le Front National est vraiment implanté, on va dire, dans la partie est de la France, hein, pour être très 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 schématique.
Oui.
Moins bien implanté, clairement, dans la France du Nord-Ouest.
Alors oui, non, la France du Nord-Ouest résiste beaucoup au vote FN, mais pour d'autres raisons de structuration sociale, des choses comme ça. Mais moi, j'ai vu pas mal de gens qui votaient FN, mais c'est pas forcément un FN de racisme, c'est un FN de relégation. C'est-à-dire, c'est un FN de sentiment de déclassement, l'idée que l'État devrait faire plus, mais a démissionné, l'idée que l'État devrait donner plus, mais donne pas assez, l'idée que...
Ouais. Alors justement, le rapport Pisani-Ferry affirmait en 2016 que la rupture électorale, elle se manifestait d'abord entre ville et campagne plutôt que selon l'indicateur habituel, c'est-à-dire le taux de personnes immigrées. Oui. Sur le trajet de la Nationale 7 du nord au sud, ou du sud au nord plutôt pour vous, est-ce que c'était perceptible ou pas, ça, cette rupture entre les grandes agglomérations que vous avez traversées, hein, Lyon notamment, et puis les zones périurbaines, pavillonnaires?
Oui, en fait, c'est incontestable. Enfin, Nice et Lyon, par exemple, sont des métropoles. Paris aussi. Donc, à partir du moment où ce sont des métropoles, ce sont des villes qui sont reliées au monde avec des aéroports, des lignes TGV, des autoroutes, et on y croise des gens qui parlent anglais, toutes les langues,
etc. Des entreprises internationales, de
l'emploi. Enfin, de l'emploi, c'est tertiaire, beaucoup. Donc, ce sont des mégalopoles, ce sont des métropoles qui sont très intégrés à la mondialisation. Après, on croise des villes plus secondaires qui sont reliées de manière un peu plus lointaine. Je pense à des villes comme Moulins ou Nevers qui sont reliées à Paris par le train Corail, qui gardent quand même un lien avec la capitale. Mais en fait, tout dépend des grands centres qui sont autour de vous et si vous êtes intégré ou non dans ces grands centres-là.
Et ça se ressentait dans les rencontres que vous faisiez?
Oui.
Cette France de la prospérité, de la fierté, cette France de l'amertume, de la déception?
Oui, la clé, elle est assez simple. Hein, c'est est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce qu'il n'y a pas d'emploi, quoi. Globalement, là où il n'y a pas d'emploi, les gens ont quand même un peu une certaine forme d'amertume. Alors, ça peut dire qu'ils votent forcément tous Front National, mais on voit quand même que c'est la préoccupation la plus importante. Et puis, mais après, moi, je ne crois pas à la grille strictement la France des campagnes et la France des villes. Quoi. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des bouts de campagne qui font partie de la ville, finalement, où on n'a que des urbains. On a beau être à 30 km d'une ville. C'est marrant, il y a des maires qui me racontaient, ils me disaient, voilà, nous, on veut des trottoirs pour garer les voitures. Alors, un trottoir dans un village, bon, c'est pas forcément indispensable. Et puis, on voit qu'on est en train de devenir une ville à partir du moment où les gens commencent à demander à ce qu'on éteigne les cloches la nuit et qu'on zigouille le coq du voisin qui chante trop tôt le matin.
Ah oui.
Donc, le rapport au bruit fait basculer certains villages dans la ville, en fait, dans une population urbaine.
Quelles sont les villes ou les régions qui ont le plus changé avec la fin de la Nationale 7 et l'urbanisation massive? Vous parliez de la désertification des centres-villes.
Oui.
C'est pas lié, d'ailleurs, forcément, à la fin de la Nationale 7. Pas seulement,
non, pas
vous citiez l'exemple
non,
de Montélimar, mais ouais. où les commerces du centre-ville ont fait faillite parce que la grande route, la Nationale 7, ne traversait plus la ville. Mais sinon, quelles sont les villes qui vous ont le plus frappé dans cette désertification au centre et puis aussi ce sentiment de relégation?
Ouais. Moi, j'ai été assez marqué par Brignoles, qui est vraiment une ville, qui est une ville dans le sud de la France.
C'est la Provence, hein,
c'est la Provence,
c'est la Provence. C'est la Provence, qu'on pourrait dire idyllique.
Idyllique, qui avait eu le malheur pour elle de se faire connaître dans les années 90, parce qu'il y avait eu je crois que c'est un conseiller départemental Front National qui avait été élu, c'était dans les premiers en France. Donc c'était devenu un peu l'affaire Brignoles. Et ville qui ne s'est jamais vraiment relevée de cette polémique, d'ailleurs, ça reste chevillé au corps de tous les gens qu'on y croise, qui vivent ça comme un peu comme un traumatisme. Et on voit que le centre-ville s'est complètement vidé, c'est-à-dire que les commerces ont fermé les uns après les autres. Il y a un taux de vacances, ce qu'on appelle la vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de commerces non occupés, qui est extrêmement important. Et puis, l'expérience de se balader dans le centre-ville un après-midi en semaine, par exemple, devient parfois, disons, modérément agréable. On a le sentiment d'être un peu dans une ville fantôme, par endroit, par moment. Alors, la mairie investit beaucoup d'argent là, pour essayer de redynamiser tout ça. Et on voit que beaucoup de villes en France, aujourd'hui, sont confrontées à ce phénomène de désertification parce que les gens sont partis des centres-villes et ils font leurs courses dans les supermarchés. Donc, les centres, maintenant, il faut leur redonner une identité et une attractivité. Il y a beaucoup d'élus, beaucoup de maires qui ont essayé de transformer leur centre-ville en petit Disneyland commercial, mais ça marche moyennement. Et puis, c'est une alchimie, redonner vie à un centre-ville. Il y a plein de paramètres, il y a peut-être 80 ou 100 paramètres sur lesquels il faut jouer et on n'est jamais sûr de vraiment réussir.
Qu'est-ce qui fait, pour vous, qui avez parcouru ces près de 1000 km en suivant cet ancien tracé de la Nationale 7, mais qu'est-ce qui... Parce que parfois, elle est complètement enfouie dans les villes, hein, dans l'urbanisation, oui, cette Nationale 7. Vous dites qu'elle est compliquée à retrouver, parfois.
Il n'y a pas un tracé de la Nationale 7, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que les villes ont aussi organisé leurs propres contournements. Il y a des contournements qui ouvrent tous les 5 ans. Enfin, donc, ouais. Du coup, il n'y a jamais eu un seul tracé de Nationale 7.
Mais qu'est-ce qui fait qu'une ville, à vos yeux, en tout cas, avec vos 30 jours passés dans un camping-car, devenait sympa ou franchement antipathique?
En tant que camping-cariste, je dois bien avouer que la question de la gestion des camping-cars, savoir si ça avait été pensé et si on avait envie de voir des... Parce que c'est ça, en fait, si on aménage des espaces pour les camping-cars...
Il y a des parkings où il y a des arceaux anti-camping-cars, ouais, c'est ça, où vous ne pouvez pas vous garer parce que ça vous bloque.
On va quand même dire les choses clairement pour les auditeurs. C'est surtout des arceaux, non pas anti-camping-cars, mais c'est plutôt anti...
stationnement de gros camions
de caravanes, court, c'est plutôt pour les caravanes, donc c'est plutôt pour les populations roms, pour toutes les populations un peu nomades qui peuvent circuler en France, que les gérants de supermarchés et les maires n'ont pas envie de voir s'installer. Donc du coup, il y a une certaine créativité urbaine qui est déployée pour faire en sorte que les caravanes ne puissent s'installer nulle part.
Alors, une ville sympa qui vous a marqué, à laquelle on ne penserait pas forcément?
Eh bien, moi j'ai bien aimé Tain-l'Hermitage, voilà. Parce que c'est une petite ville qui est dans la vallée du Rhône, qui est au sud de Lyon, qui est une ville de patrimoine, d'art, d'histoire, de gastronomie, qui incarne vraiment tout ce qui est un peu la France dans ses terroirs. On y mange, on y boit bien. Enfin, il y a vraiment un art de vivre qui est extrêmement développé et assumé comme tel. Et puis on croise des personnages fascinants. Je me souviens avoir passé un peu de temps avec un vigneron qui s'appelle Michel Chapoutier, qui est un grand défenseur des vins de la vallée du Rhône. Et qui est un entrepreneur, un homme qui aime innover, qui aime la technologie, qui aime discuter pendant des heures, palabrer sur son vin et expliquer comment on va sauver les vins français.
Et puis on fait quand même des découvertes aussi dans votre livre assez incroyable. On découvre que Montargis, on dit Montargis, hein, c'est bien ça, on ne prononce pas le S, me semble-t-il, est très connu en Chine, plus connu que Lyon ou Marseille, parce que c'est ici autour du bassin du romantique jardin d'Urzi, écrivez-vous, qu'est née l'idée d'un parti communiste chinois et que l'épisode est connu dans l'histoire chinoise comme le serment de Montargis et que c'est aussi dans cette ville que le jeune Deng Xiaoping a éveillé sa conscience politique parce qu'il était venu travailler comme étudiant ouvrier dans l'usine Hutchinson. Le futur secrétaire général du parti communiste chinois donc avait fait, écrivez-vous, ses premières armes syndicales au cœur du prolétariat français. Et donc la ville de Montargis se pousse du col pour continuer d'attirer des touristes chinois.
Mais la Chine d'ailleurs... met un petit peu d'argent là-dedans, parce qu'il y a eu un musée de la Chine à Montargis où vous pouvez retrouver des images de Deng Xiaoping. Justement, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ces échanges d'étudiants chinois en France. Vous pouvez retracer un petit peu l'histoire de la Chine à Montargis. Et c'est un musée qui est visité surtout par des quarts de touristes chinois, mais que je vous incite à visiter parce que c'est réellement intéressant comme musée.
On s'inquiète un peu plus qu'avant, et sans vouloir te déranger, si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. J'imagine que le temps te manque plus qu'à nous, avec toutes ses mains serrées. Ici c'est pas le temps qui manque, souviens-toi, au village on peut le toucher. Pourtant il passe même ici, tu verrais à quoi je ressemble quand on a tout le temps d'attendre. On ne peut pas croire qu'on vous oublie, si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. Si tu pouvais passer nous voir, passer nous voir. Si tu
C'est Dominique A, passez-nous voir chez 7 milliards de voisins sur RFI. C'est pas forcément la phrase que vous avez le plus entendue durant votre périple de 30 jours en camping-car, Clément Pétraud, à emprunter cette fameuse route nationale 7. Vous nous disiez en début d'émission, on n'a pas tellement invité comme ça à l'impromptu.
Peu.
Donc vous êtes resté en grande partie seul sur vos parkings de supermarché, non pas les aires d'autoroute, et pour cause, hein, puisque vous avez...
Non,
à un moment
attention.
Donné, je me demande si vous n'avez pas été un tout petit peu obligé d'emprunter un tout petit tronçon d'autoroute.
Je vais vous faire un aveu, la route fait 1000 km et j'en avais 3500 au compteur en rentrant, donc il m'est arrivé de faire des écarts et des allers-retours aussi par l'autoroute.
Alors ceci dit, cette Nationale 7, aujourd'hui, qui l'emprunte encore à l'heure de l'autoroute?
Alors, tout un tas de monde, vraiment, parce qu'elle joue toujours un rôle régional dans les différentes régions qu'elle traverse. Et puis, il y a aussi des camions qui l'empruntent beaucoup. Et puis, vous avez aussi des amateurs de la France des Trente Glorieuses qui font régulièrement des virées sur la Nationale 7 et qui descendent depuis Paris, souvent en voiture de collection, pour se rappeler... cette période qu'ils aiment tant.
Des vacanciers fauchés aussi, parce qu'il faut bien le redire, cette Nationale 7, si on l'emprunte vraiment de Paris à Menton ou de Menton à Paris, en tout cas du nord au sud ou du sud au nord, près de 1000 km, gratuit. Par rapport à l'autoroute, ça fait une sacrée différence. Je sais pas
oui,
si
c'est
vous avez
gratuit,
fait
mais il faut quand même faire une nuit d'hôtel. Enfin, il faut s'arrêter à un moment.
Bien sûr.
Faut,
et, oui.
Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez forcément toujours
hébergé
gagnant.
Chez des cousins ou des âmes charitables.
À moins de lui faire héberger. Puis, il ne faut pas être pressé non plus.
Mais il y a des familles qui prennent ce parti pour aller en vacances, de reprendre cette National 7 en tant que, on va dire, objet vintage, comme on dit maintenant.
Oui, alors non, il y a un vrai culte autour de la National 7. C'est marrant parce que les villes sont en train de redécouvrir un petit peu l'atout que peut représenter la National 7 pour elles. Je pense en particulier à La Palisse et au travail de Thierry Dubois qui organise...
Oui, c'est ça. J'allais vous demander s'il fallait mettre un visage sur la National 7.
Bien sûr, bien évidemment.
C'est le fameux Thierry Dubois.
Le saint patron de la National 7.
Qui est-il ?
Eh bien, Thierry Dubois est un dessinateur qui travaille beaucoup dans la presse automobile et qui a fait pas mal de bandes dessinées, en particulier autour de la National 7. C'est, à mon avis, l'un des meilleurs connaisseurs de la National 7 en tant qu'objet historique. Et il la raconte à merveille. Il a des tonnes d'anecdotes à raconter sur cette route. Et surtout, il l'a fait vivre. Il l'a fait vivre à travers ses embouteillages. Donc, il recrée des embouteillages. Donc, les gens viennent et s'inscrivent pour venir à des embouteillages
volontairement. On s'inscrit pour participer aux embouteillages de la National 7.
Oui, mais ils viennent en deux chevaux, attention, ils viennent dans des objets de collection et en 4L. Ouais.
Et la fête de la National 7 tous les deux ans, c'est ça ?
Il y a plusieurs événements qui fédèrent autour de la National 7. Il y a vraiment, chaque ville essaye de créer un peu son événement en ce moment autour de la National 7 parce que les villes ont compris qu'il y avait quelque chose à en tirer. À Pouglézo, là, qui est un petit peu juste avant ou après Nevers, ça dépend du sens dans lequel vous allez. Il y a eu un événement là, il y a quelques semaines. Il y a eu plus de 10 000 personnes, ce qui est absolument considérable pour une ville qui n'est pas très grande. Quoi.
Le Tour de France a longtemps participé à préserver un peu d'activité sur la National 7, non ?
La National 7 est totalement raccord avec le Tour de France. C'est fait partie des lieux de culte et du patrimoine français. Ouais, c'est ce patrimoine paysager, géographique, sportif.
Alors je crois qu'il y a deux musées sur la National 7. Il y en a un qui est à 1 heure de Paris, l'autre qui est dans le Vaucluse.
Oui.
Vous n'avez pas eu l'occasion de...
Alors si, je m'y suis arrêté. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu... il a traversé une période en tout cas compliquée récemment et qu'il est à sauver et qu'il cherche des donateurs. C'est un musée dans lequel vous pouvez trouver beaucoup de voitures, de collections et d'objets de l'époque.
Alors 30 jours en camping-car à reprendre cette fameuse National 7, certes, il ne s'agit pas d'un exploit, mais tout de même d'une vraie rupture quand on est journaliste à Paris, qu'on vit en tout cas et travaille dans une métropole comme Paris. Le retour à Paris, ça se passe comment dans ces cas-là ?
Ça se passe pas si mal parce que vous êtes quand même, vous retrouvez vos proches, vous retrouvez vos marques, voilà, mais vous revenez un peu ébranlé.
Ah non,
de
mais
ce que
vous dites
avez
le retour
découvert.
À la vie ordinaire mais... fut violent.
Oui,
donc,
c'est dur.
Soyez rentré
non,
du Sahara, que vous n'auriez pas écrit autre chose.
Oui, c'est dur parce que vous avez été déraciné de chez vous pendant un mois parce que vous avez rencontré des gens qui ont été extrêmement violents dans leur manière de décrire le monde et puis parce que finalement vous avez instauré un mode de vie qui vous convenait bien avec votre maison sur le dos et vos petites habitudes. Et que finalement lâcher tout ça, c'est aussi lâcher le plaisir du voyage, le plaisir de la rencontre, et puis revenir à une vie un peu plus normée, un peu morne parfois.
Une autre forme aussi de travail journalistique.
Oui, en fait, c'était vraiment ce qui me motivait là-dedans, c'est-à-dire on ne peut pas couvrir ou prétendre couvrir un pays, une élection présidentielle, si on ne connaît pas les aspirations profondes de ses habitants. Et du coup, il y a un travail qui n'est pas très valorisé journalistiquement, mais qui consiste à aller faire du micro-trottoir géant et d'aller dire aux gens « mais pourquoi vous habitez là ?» Finalement, c'est quoi votre rêve ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ? Et si vous pouviez faire autrement, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie ? Voilà. Et ça, c'est un travail tout bête. Mais c'est fantastique, c'est le plus beau travail journalistique qu'on puisse faire.
Et que répondent alors les Français quand vous posiez cette question-là ? Parce que vous avez traversé, bah vous l'avez dit, en grande partie la France moche aussi. Alors quand on pose la question, bien sûr vous n'avez pas demandé aux gens pourquoi vous habitez dans un endroit laid. Néanmoins, forcément, ça questionne les Français, non ?
Oui, ça les questionne.
Quel est le regard qu'ils ont sur le lieu où ils vivent, choisi ou pas d'ailleurs ?
Souvent c'est choisi. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont des histoires de hasard. C'est toujours au hasard d'une mutation, d'une rencontre, d'un retour, d'un héritage. Enfin, il y a mille raisons qui font que des gens habitent dans une même ville, mais personne n'a la même raison que son voisin. Ça, c'est assez rigolo. Après, ils ont conscience de l'endroit où ils habitent. Ils savent que, ils ont pour beaucoup voyagé. Ils ont vu la France, le monde, l'Europe. Ils ont totalement conscience de l'endroit où ils habitent. Mais une fois encore, je vous dis, c'est le côté... pour eux, c'est pratique. Voilà. C'est leur vie et leur périmètre, leur cadre de vie. Ils aiment leur cadre de vie parce qu'il est fonctionnel et parce qu'ils ont su s'y faire une place et y trouver leurs habitudes, leurs amis, leur tisser des réseaux de relations. Voilà, ils ont même les mêmes aspirations que vous et moi. Hein. C'est marrant, les lotissements sont criblés de bobos qui cherchent à avoir un abonnement Netflix, à brasser leur bière. Voilà, on a tous les mêmes aspirations finalement. qu'on habite dans un appartement haussmannien à Paris ou dans un lotissement, je ne sais pas.
Néanmoins, si vous aviez fait ce livre-là sur une route aux États-Unis, pas forcément la route 66, ouais, mais vous auriez constaté tout de même que les Américains sont très déracinés, qu'ils ont peu d'histoire, peu de passé par rapport au lieu, ouais, où ils vivent. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec le chamboule-tout de la mondialisation en France, vous avez aussi constaté cette forme de déracinement des habitants par rapport à des territoires ?
Alors oui, il y a effectivement des endroits qui n'ont pas d'histoire.
Parce
vraiment,
que bien sûr, à Paris, la majorité des habitants à Paris viennent de province, par, oui, leurs parents, leurs grands-parents, leurs...
Bonne moitié,
c'est particulier,
oui,
voilà.
Bonne moitié.
Mais ailleurs, vous, sur ces territoires, en partie de la France profonde.
Oui, vous avez des villes nouvelles, enfin des villes qui étaient à l'origine, vous avez un petit noyau qui était un village, qui se trouve, je ne sais pas, à 30 km d'une ville, et qui devient une espèce de ville nouvelle avec des lotissements, des immeubles. Et au fond, la question, c'est comment on tient ensemble alors qu'on n'a pas d'histoire à partager, qu'on ne se connaît pas, qu'on n'a pas forcément une ville qui est configurée avec des modes de vie où on va avoir un café pour se retrouver, un marché, etc. Mmh. Donc comment est-ce qu'on réinvente tous les modes de sociabilité? Comment est-ce qu'on réinvente le lien social dans des lieux qui n'ont pas forcément été pensés pour ça? Et ça, c'est assez intéressant. On voit pas mal d'initiatives qui se développent. J'avais vu en particulier l'initiative des voisins vigilants, que je prenais moi pour un truc totalement
sécuritaire,
réactionnaire, un peu planqué derrière son rideau à surveiller ses voisins. Enfin, vraiment, pour moi, c'était quelque chose qui se déploie partout en France. Il y a plus de 300 000 adhérents juste sur l'association que j'avais été voir. C'est absolument considérable. 300 000 adhérents, c'est plus que n'importe quel parti politique en France. Hein. Donc quand même, ce sont des associations massives.
Les voisins vigilants.
Voisins vigilants, oui. Alors vous en avez 4 ou 5 différentes, mais on voit qu'il y a une nécessité et une envie de créer des liens avec son voisin et plus largement sa rue et même le pâté de maison, et que la sécurité fait partie des prétextes ou des raisons, parce que c'est parfois une vraie raison, mais fait partie des motifs en tout cas de sociabilisation et de sociabilité qu'on peut avoir avec ses voisins. Et qu'en général, on commence sur une question de sécurité et puis on finit en se faisant des barbecues et, ouais, et voilà.
En tout cas, vous avez passé 30 jours dans un camping-car qui ne fermait pas à clé,
et
donc
non,
et vous avez dormi à peu près partout.
Hein,
le long de cette Nationale 7, vous avez d'autres projets d'enquête en camping-car, Clément Pétraud ?
Je me tâte pour faire le tour d'Europe pour les élections européennes, mais je le ferai plutôt en bus, parce que finalement, le vrai transport européen, c'est le bus.
Ouais. Et bien, ça donnera quelque chose de singulier, tout comme votre National 7, Voyage dans une France oubliée, et c'est publié chez Stock. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres et d'histoires savoureuses. Merci à vous d'être passé par le studio,
et ben, merci à vous,
de 7 milliards de voisins. Très, merci, bonne journée. À suivre dans quelques instants, ça sera notre rubrique, comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne, mais ça sera juste après Emmène-moi.
De Brest à Besançon, depuis La Rochelle jusqu'en Avignon, de Nantes jusqu'à Monaco, en passant par Metz et Saint-Malo, et Paris. Et j'ai vendu des marrons à la foire de Dijon, la barbe à papa. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. J'ai dormi toute une nuit dans un abreuvoir, j'ai attrapé la grippe et des idées noires. J'ai eu mal aux dents et la rougeole, j'ai attrapé des rhumes et des petites bestioles qui piquent. Sans parler de toutes les fois que j'ai coupé mes doigts sur une boîte à sardines. Je les vois tous les deux comme si c'était hier, au coucher du soleil, maman m'étant couvert, et mon vieux papa
avec sa cuillère, remplissant son assiette de pommes de terre. Et bien cuite, il est dimanche, maman coupant une tranche de tarte aux pommes. J'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. Je ne veux plus voyager.
Emmène-moi, Framix chez 7 milliards de voisins. Et je vous le disais, dans quelques instants, comme chaque lundi, c'est l'Afrique qui gagne, tournée vers le futur.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Dorcès Apour est ghanéenne, elle a 23 ans, elle travaille à inclure les femmes rurales, à leur donner du travail et elle lutte contre l'abandon scolaire en milieu rural. Étudiante à Accra, elle a fondé en 2014 Asige Ghana Advocacy for Social Inclusion and Girls Education. C'est une association pour défendre l'accès à l'éducation, notamment des filles dans son pays. Elle a réussi grâce à l'école, en s'accrochant de son côté, en venant d'une famille très pauvre. Elle est la seule fille de sa grande fratrie à être aller à l'école.
I grew up from in Bongo district in the Upper East region of Ghana.
J'ai grandi dans le district Bongo, au nord-est du Ghana. Mon père s'est marié avec trois femmes. Ma mère est sa troisième épouse. Il a eu 25 enfants. J'ai perdu 13 de mes frères et sœurs à cause de la pauvreté et de la malnutrition. Mes parents sont fermiers. Ils ne cultivent pas pour vendre, mais pour notre propre subsistance.
Qu'est-ce qu'ils cultivent ?
Ils cultivent du mil, des haricots et du riz. Ça a été très difficile pour moi d'avoir accès à l'éducation, de parvenir à atteindre ce niveau d'études. Dans ma famille, je suis la seule fille à être allée à l'université. Et même au sein de ma communauté, de mon village, je suis la seule qui a eu cette opportunité. Mes sœurs plus âgées ne sont jamais allées à l'école. Elles sont déjà mariées. Mes parents n'avaient pas d'argent pour les envoyer à l'école. Mes parents eux-mêmes ne sont jamais allés à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais moi, quand j'étais assise à la maison, je voyais les enfants de mon village passer pour se rendre à l'école primaire. Alors je courais toujours pour les rejoindre, pour aller à l'école avec eux. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'école. Ce ne sont pas mes parents qui m'y ont inscrite ou emmenée. Non, j'y allais sans sandales, pieds nus, comme ça. Pendant les premières années d'école primaire, je n'avais même pas de stylo, ni de cahier pour écrire. Quand j'allais à l'école, je suppliais mes camarades de me prêter un stylo ou une feuille. Alors je pouvais écrire et rentrer tranquillement à la maison après les cours.
Et vos parents vous laissaient y aller ?
Oui, ils m'ont laissé faire. Ils ne m'ont pas forcé à revenir à la maison. Moi, j'étais contente d'apprendre plein de choses dont on ne parlait pas chez nous. J'étais heureuse. J'ai réussi à faire cela parce que je travaillais à côté, pour aider financièrement ma mère à la maison. Dans la semaine, du lundi au vendredi, je pouvais m'absenter 2 jours de l'école. Et parfois même, je n'y allais qu'un seul jour dans la semaine. Voir mes enseignants dans la salle de classe, à quoi ils ressemblaient, comment ils étaient habillés, j'ai même eu une enseignante qui était une femme, cela m'inspirait, cela me poussait à étudier dur. Je voulais devenir une personne importante, c'est comme ça que je voyais mon avenir. Comme j'étais toujours en retard sur le programme, je recopiais tout ce que j'avais manqué grâce aux notes de mes amis. Je ramenais tout ça chez moi pour les relire, dès que je pouvais, quoi que je fasse. Par exemple, à chaque fois que j'allais en forêt avec ma mère, on portait du bois sur nos têtes pour le vendre, cela faisait mal, j'apportais avec moi un livre et un stylo. Pour lire en marchant. Je prenais aussi un livre avec moi quand j'allais chercher de l'eau au puits ou alors quand je faisais la cuisine. J'apprenais tout le temps. C'est comme ça que j'ai réussi à rattraper les autres.
Et comment vous vivez le fait d'avoir dû vous battre pour aller à l'école alors que d'autres, dans votre classe ou même dans d'autres villes du pays, n'avaient pas besoin de faire ça?
Ça me fait mal. À chaque fois que j'allais à l'école, je voyais les autres arriver avec de jolis uniformes, des nouvelles sandales. Ils s'asseyaient en classe, ils étaient à l'aise. Je me sentais inférieure. comme si je n'appartenais pas à leur groupe, comme si je n'avais pas ma place parmi eux dans leur classe. Dans ma tête, j'étais en compétition avec eux. Et aux examens, j'étais toujours la première. Et le fait de finir première, devant eux, ça donnait moins d'importance à la façon dont je m'habillais. Je me sentais bien.
Vous étiez souvent la première de la classe ?
En primaire, oui. Au collège, j'étais aussi la première de la classe. Ou parfois la deuxième.
Vous parlez très bien anglais ?
J'allais à l'école dans un village très reculé où nous n'avions pas de vrais enseignants. Ceux qui nous donnaient cours étaient simplement allés jusqu'au lycée et ils étaient revenus dans les écoles où on avait besoin d'eux. Parfois, quand il pleuvait, ils n'arrivaient même pas à venir jusqu'à l'école. Alors, quand vous êtes dans une telle école, si vous ne lisez pas en dehors de la classe, vous n'apprendrez jamais l'anglais. Je lisais beaucoup, beaucoup, et je pense que la lecture m'a aidé à mieux parler anglais.
Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que vous avez lu qui vous a marqué ?
Je me rappelle d'un roman, La ferme des animaux,
de l'écrivain George Orwell.
Oui, George Orwell, c'est ça. Dans ce livre, il a écrit quelque chose comme « Aucune condition n'est permanente, et quelle que soit votre situation, n'abandonnez pas. Vous réussirez un jour à trouver votre place. » Voilà pour moi, en fait, les livres nous encouragent, ils nous aident à grandir et à nous rapprocher de nos rêves jour après jour. Quand je suis arrivée au collège, ça a été la même histoire. J'ai dû continuer à travailler. À chaque période de vacances, j'allais travailler en ville, seule, dans les restaurants. Parfois, j'étais agressée par la gérante. Elle me traitait mal. Elle pouvait me renverser de l'eau dessus ou m'insulter. J'ai continué à être serveuse quand j'étais au lycée aussi, pour payer mes études. Il y a eu des moments où j'aurais pu quitter l'école, tout abandonner. Mais je me suis dit, non, je peux faire quelque chose de mieux. Alors je me suis accrochée à l'éducation. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai cru que cela serait la fin de ma vie. Parce que pour aller à l'université au Ghana, il faut débourser des millions de dollars pour les frais de scolarité et pour les autres dépenses. J'exagère, mais c'est cher. Heureusement, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse, grâce à une ONG internationale. Ça m'a sauvé la vie. Et ça a marqué un vrai tournant pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ma communauté. Mon rêve est de travailler à l'ONU et je suis actuellement en licence. J'étudie les sciences sociales et les programmes de développement.
Et donc aujourd'hui, vous êtes encore étudiante à l'université d'Accra et vous avez fondé une association en 2014 qui s'appelle Advocacy for Social Inclusion and Girls Education. Donc qui veut en fait militer pour l'inclusion sociale et l'éducation des filles. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec cette association ?
J'ai pu envoyer 9 mères adolescentes à l'école. J'ai aussi lancé un programme d'autonomisation des femmes grâce au tissage de paniers. En février 2017, pour mon association, j'ai remporté une bourse pour le prix Pollination, un prix américain, l'équivalent $1,000,000. Et avec cet argent, aujourd'hui j'aide 219 femmes dans la région d'où je viens, dans l'extrême nord-est du Ghana. Là-bas, il y a une vraie insécurité alimentaire. Et les femmes ont très peu accès à l'éducation.
Qu'est-ce que pour vous ça évoque, l'Afrique qui gagne ?
L'Afrique qui gagne, c'est simplement ces gens qui sont capables de se tenir debout sur leurs pieds. Et pour cela, il faut être éduqué. Si tu es éduqué, tu as du pouvoir. Tu as des compétences qui te permettent de te battre pour toi-même et pour les autres. Par exemple, moi qui me tiens ici devant vous, je peux me dire que je suis allée loin. Et je me bats pour que d'autres puissent aller aussi loin que moi. En faisant ça, nous nous battons pour l'Afrique, pour l'aider à se développer. On peut dire que j'incarne un peu l'Afrique qui gagne aujourd'hui.
Merci à vous tous, merci à l'équipe. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Marion Goubard. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique magazine, nous contacter aussi via les réseaux sociaux ou par mail à 7milliards@rfi.fr. Et puis sur le site rfi.fr, bien sûr, vous trouvez tous les jours les références de nos émissions, des ouvrages comme National 7, Voyage dans une France oubliée de Clément Pétraud chez Stock. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du patrimoine culinaire africain avec de jeunes entrepreneurs qui ont accompli leurs rêves, partagé leur fierté, leur passion pour des produits, des recettes qui sont souvent méconnues en dehors du continent. Et ils nous raconteront aussi comment les cuisines africaines circulent aujourd'hui à la vitesse des réseaux sociaux et des photos les plus appétissantes. Voilà, rendez-vous demain avec les papilles en folie et j'espère vos commentaires à vous les voisins et vos meilleures recettes. Rendez-vous 10h10, temps universel.